Chapitre 26, verset 36. Alors Jésus s'en vient avec eux en un lieu appelé Gethsémané et dit aux disciples, asseyez-vous ici jusqu'à ce que, m'en étant allé, j'ai prié là. Et ayant pris Pierre et les deux fils de Zébédée, il commença à être attristé et fort angoissé. Alors il leur dit, mon âme est saisie de tristesse jusqu'à la mort. Demeurez ici et veillez avec moi. Et s'en allant un peu plus avant, il tomba sur sa face, priant et disant, mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, toutefois non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. Et il vient vers les disciples et les trouva dormant. Elle dit à Pierre, ainsi vous n'avez pas pu veiller une heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous n'entriez pas en tentation. L'esprit est prompt, mais la chair est faible. Il s'en alla de nouveau une seconde fois et il pria, disant, mon Père, s'il n'est pas possible que ceci passe loin de moi, sans que je le boive, que ta volonté soit faite. Étant venu, il les trouva de nouveau dormants, car leurs yeux étaient appesantis. Et les laissant, il s'en alla de nouveau et pria une troisième fois, disant les mêmes paroles. Alors il vient vers les disciples et leur dit, dormez dorénavant et reposez-vous. Voici l'heure s'est approchée, et le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici celui qui me livre s'est approché. Et comme il parlait encore, voici Judas, l'un des douze, vint et avec lui une grande foule avec des épées et des bâtons de la part des principaux sacrificateurs et des anciens du peuple. Et celui qui le livrait leur donna un signe, disant, « Celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le. » Et aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit, « Je te salue, Rabbi. » Et il le baisa avec empressement. Et Jésus lui dit, « Ami, pourquoi es-tu venu ?» Alors s'étant approchés, ils mirent les mains sur Jésus et se saisirent de lui. Et voici l'un de ceux qui étaient avec Jésus, étendant la main, tira son épée et frappant l'esclave du souverain sacrificateur, lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, « Remets ton épée en son lieu. » Car tous ceux qui auront pris l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas maintenant prier mon Père, et il me fournira plus de 12 légions d'anges? Comment donc seraient accomplies les Écritures qui disent qu'il faut qu'il en arrive ainsi? En cette heure-là, Jésus dit aux foules, « Êtes-vous sortis comme après un brigand avec des épées et des bâtons pour me prendre ?» J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne vous êtes pas saisis de moi. Mais tout ceci est arrivé afin que les Écritures des prophètes soient accomplies. Alors, tous les disciples le laissèrent et s'enfuirent. Et ceux qui s'étaient saisis de Jésus l'amenèrent à Caïphe, le souverain sacrificateur, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Et Pierre le suivait de loin jusqu'au palais du souverain sacrificateur. Et étant entré, il s'assit avec les huissiers pour voir la fin. Or, les principaux sacrificateurs et les anciens et tout le Sanhédrin cherchaient quelque faux témoignage contre Jésus de manière à le faire mourir et ils n'en trouvèrent point, bien que plusieurs faux témoins fussent venus. Mais à la fin, deux faux témoins vinrent et dirent, celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et en trois jours le bâtir. Et le souverain sacrificateur se levant lui dit, ne réponds-tu rien? De quoi ceci témoigne-t-il contre toi? Mais Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur répondant lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant que tu nous dises si toi tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui dit, tu l'as dit. De plus, je vous dis, dorénavant, vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance et venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements en disant « Il a blasphémé, qu'avons-nous encore besoin de témoins ? Voici, vous avez, oui, maintenant son blasphème. Que vous en semble ?» Et répondant, ils dirent « Il mérite la mort. » Alors ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des soufflets et quelques-uns le frappèrent disant « Prophétise-nous, Christ, qui est celui qui t'a frappé ?» Or Pierre était assis dehors dans la cour. Et une servante vint à lui disant « Et toi, tu étais avec Jésus, le Galiléen ?» Et il le nia devant tous, disant « Je ne sais ce que tu dis. » Et une autre servante le vit, comme il était sorti dans le vestibule. Elle dit à ceux qui étaient là « Celui-ci aussi était avec Jésus, le Nazaréen. » Et il le nia de nouveau avec serment. Je ne connais pas cet homme. Et un peu après, ceux qui se trouvaient là s'approchèrent et dirent à Pierre, certainement, toi, tu es aussi de ces gens-là, car aussi ton langage te fait reconnaître. Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer, je ne connais pas cet homme. Et aussitôt, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole de Jésus qui lui avait dit « Avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. » Et étant sorti dehors, il pleura amèrement. Or, quand le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Et l'ayant lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, ayant du remords, reporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, disant « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Mais ils dirent « Que nous importe, tu y aviseras. » Ayant jeté l'argent dans le temple, il se retira, et s'en étant allé, il se pendit. Mais les principaux sacrificateurs, ayant pris des pièces d'argent, dirent « Il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. » Ayant tenu conseil, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. C'est pourquoi ce champ-là a été appelé « champ de sang » jusqu'à aujourd'hui. Alors fut accompli ce qui avait été dit par Jérémie le prophète, disant « Ils ont pris les 30 pièces d'argent ». Le prix de celui qui a été évalué, lequel ceux d'entre les fils d'Israël ont évalué, et les ont donnés pour le champ du potier, comme le Seigneur m'avait ordonné. Or Jésus se tenait devant le gouverneur, et le gouverneur l'interrogea, disant, « Es-tu toi, le roi des Juifs ?» Et Jésus lui dit, « Tu le dis. » Étant accusé par les principaux sacrificateurs et les anciens, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit, « N'entends-tu pas de combien de choses ils portent témoignage contre toi ?» Et il ne lui répondit pas même un seul mot, de sorte que le gouverneur s'en étonnait fort. Or, à la fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier à la foule, celui qu'il voulait. Et il y avait alors un prisonnier fameux, nommé Barabbas. Comme donc ils étaient assemblés, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je vous relâche ?» « Barabbas ou Jésus qui est appelé Christ ?» Car il savait qu'il l'avait livré par envie. Et comme il était assis sur le tribunal, sa femme lui envoya dire « N'ai rien à faire avec ce juste, car j'ai beaucoup souffert aujourd'hui à son sujet dans un songe. » Mais les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent aux foules de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Et le gouverneur répondant leur dit « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Et ils dirent « Barabbas ». Et Pilate leur dit « Que ferai-je donc de Jésus qui est appelé Christ ?» Et ils dirent tous « Qu'il soit crucifié !» Et le gouverneur dit « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et ils s'écrièrent encore plus fort « Qu'il soit crucifié !» Et Pilate, voyant qu'ils ne gagnaient rien, mais que plutôt il s'élevait un tumulte, prit de l'eau et se lava les mains devant la foule, disant « Je suis innocent du sang de ce juste. Vous, vous y aviserez. » Et tout le peuple répondant dit « Que son sang soit sur nous et sur nos enfants. » Alors, il le relâcha Barabbas, et ayant fait fouetter Jésus, il le livra pour être crucifié. Alors les soldats du gouverneur, ayant emmené Jésus au prétoire, assemblèrent contre lui toute la cohorte. Et lui, ayant ôté ses vêtements, ils lui mirent un manteau d'écarlate, ayant tressé une couronne d'épines, ils la mirent sur sa tête, et un roseau dans sa main droite. Et, fléchissant les genoux devant lui, ils se moquaient de lui, disant, « Salut, roi des Juifs !» Ayant craché contre lui, ils prirent le roseau et lui en frappaient la tête. Et après qu'ils se furent moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau et le revêtirent de ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Et comme ils sortaient, ils trouvèrent un homme de Cyrène nommé Simon, qu'ils contraignirent de porter sa croix. Et étant arrivés au lieu appelé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vinaigre mêlé de fiel. Et l'ayant goûté, il n'en voulut pas boire. Et l'ayant crucifié, ils partagèrent ses vêtements en tirant au sort, et s'étant assis, ils veillaient là sur lui. Et ils placèrent au-dessus de sa tête son accusation écrite, « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. » Alors sont crucifiés avec lui deux brigands, un à la droite et un à la gauche. Et celui qui passait par là l'injuriait, hochant la tête et disant, « Toi qui détruis le temple et tu le bâtis en trois jours, sauf toi toi-même, si tu es fils de Dieu, descends de la croix. » Et pareillement aussi, les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquant, disaient, « Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, qu'il le délivre maintenant s'il tient à lui, car il a dit, « Je suis fils de Dieu. » Et les brigands aussi, qui avaient été crucifiés avec lui, l'insultaient de la même manière. Mais, depuis la sixième heure, il y eut des ténèbres sur tout le pays jusqu'à la neuvième heure. Et, vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une forte voix, disant, « Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et quelques-uns de ceux qui se tenaient là, ayant entendu cela, disaient, « Il appelle Eli, celui-ci. » Et aussitôt l'un d'entre eux courut et prit une éponge et l'ayant remplie de vinaigre, la mit au bout d'un roseau et de la boire. Mais les autres disaient, « Laisse, voyons si Élie vient pour le sauver. » Et Jésus, ayant encore crié d'une forte voix, rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchirant en deux depuis le haut jusqu'en bas. Et la terre trembla et les rochers se fendirent et les sépulcres s'ouvrirent. Et beaucoup de corps des saints dont dormir ressuscitèrent, et étant sortis des sépulcres après sa résurrection, ils entrèrent dans la sainte ville et apparurent à plusieurs. C'est une chose inappréciable que Dieu nous ait donné sa parole, et que Dieu nous montre ce qu'est l'homme. Jamais l'homme ne peut s'estimer à quel point il est tombé dans le péché, dans l'esclavage de Satan. La parole de Dieu est la lumière qui vient pénétrer dans nos consciences pour nous montrer ce que nous sommes. Il n'y a point de juste, non, point même un seul. Il n'y a personne qui ait de l'intelligence. Il n'y a personne qui recherche Dieu. Ils se sont tous détournés. Ils se sont tous ensemble rendus inutiles. Il n'y a personne qui exerce la bonté. Il n'y a pas même un seul. C'est au début de l'Épître aux Romains que Dieu nous montre ce que nous sommes par nature, descendants d'Adam, esclaves de Satan, morts dans nos fautes et dans nos péchés. Et si la parole nous démontre notre état misérable, la parole aussi nous montre ce que Dieu est. Il est lumière. Dieu est un Dieu saint. Tu ne peux pas voir le péché sans le condamner. Et tous les hommes sont pécheurs. Et les hommes, de nos jours, prétendent pouvoir s'approcher de Dieu dans leur état, dans leur justice trapée, dans leur justice légale. Et la parole de Dieu nous montre que Dieu a horreur du péché et qu'il ne peut le tolérer en sa présence et que tous ceux qui se présentent devant lui dans leur état naturel sont condamnés. Les hommes se disent « Oh, Dieu est bon, Dieu ne peut pas nous juger. » Puis du reste, personnellement, moi, je ne suis pas si mal placé que ça. Il y en a plus qui sont beaucoup plus pécheurs que moi. On se compare aux autres avec beaucoup d'indulgence. Mais Dieu vient déclarer que l'homme pécheur ne peut absolument pas paraître en sa présence. Il est condamné d'avance. Et tous ceux qui paraîtront devant le grand trône blanc seront jugés d'après leur œuvre et tous condamnés, sans exception. La croix de Christ ouvre devant nous nos propres cœurs, le cœur de l'homme. Le Seigneur Jésus est venu dans ce monde, manifestant Dieu en grâce. Les hommes lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Le cœur de l'homme est ouvert à la croix de Christ. Nous voyons ici, il y a unanimité pour réclamer la condamnation du juste. Pas une voix ne s'élève pour prendre sa défense. Ses disciples abandonnent. Judas a vendu son maître. Les sacrificateurs qui devraient intercéder pour les pécheurs sont les premiers à vouloir sa mort et sa condamnation. Les anciens, ces gens qui devaient avoir de l'expérience, sont là pour le condamner et réclamer sa mort. Le souverain sacrificateur est là pour l'accuser. Il déchire ses vêtements, ce que la loi interdisait. Le sacrificateur ne devait pas déchirer ses vêtements selon Lévitique 21:10. Et Pilate, est-il représentant de l'empereur romain? Pilate reconnaît que cet homme est juste. Il a encore le témoignage de sa femme. N'est rien à faire avec ce juste. Et Pilate le livre. Pilate se lave les mains, comme si cela pouvait le justifier au jour du jugement. Il y a unanimité pour réclamer la mort du Seigneur. Eh bien, nous voyons là nos propres cœurs comme descendants d'Adam. Tout ce que le Seigneur Jésus a rencontré dans ce monde avait un double but. Premièrement, si cela était possible, de le rebuter dans son chemin, pour qu'il dise après tout non. Non. Ils sont trop mauvais, ils sont trop méchants. Mais rien n'a rebuté le Seigneur Jésus dans son amour infini. Rien n'arrêta son ineffable amour. Et puis, aussi, tout ce que le Seigneur Jésus a traversé était là pour démontrer sa perfection infinie. Et comme tel, il était seul habilité pour accomplir l'œuvre de la rédemption et de notre salut. Mais nous voyons ce qui se passe à Gethsémané. Le Seigneur Jésus, Dieu manifesté en chair, le resplendissement de la gloire de Dieu, l'empreinte de sa substance, était là comme un homme abaissé, et les hommes en ont profité, ne pouvant atteindre Dieu, de se venger sur son Fils. Le Seigneur Jésus n'avait fait que le bien. Il nous a dit qu'il allait de lieu en lieu faisant le bien, délivrant tous ceux que le diable avait asservis à sa puissance. Il était Dieu manifesté en grâce, en amour, toujours ému de compassion envers cette créature, esclave de Satan, souffrant des conséquences du péché. Mais le Seigneur Jésus était venu dans une pleine communion avec son Père. En entrant dans le monde, il avait déclaré « Voici, je viens au Dieu pour faire ta volonté. » Et il savait parfaitement ce qu'était la volonté de Dieu. Il a pleinement manifesté le cœur de Dieu, l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, les compassions de Dieu. Eh bien, pour tout son amour, nous lui avons rendu la haine. Arrivé à la fin de son ministère, il pouvait dire « Ils ont élu et haï, et moi et mon Père. » Eh bien, le Seigneur Jésus était venu pour manifester l'amour de Dieu, car si la croix manifeste l'état de perdition irrémédiable de l'homme dans son état naturel, la croix nous montre l'amour de Dieu, un amour infini, insondable, incompréhensible. L'amour de Dieu est plus grand que nos péchés. Mais combien en a coûté pour le Seigneur? Nous le voyons à Gethsémane. Oh, cette scène de Gethsémane. Elle fera l'objet de nos méditations pendant l'éternité. Il avait recommandé aux disciples de veiller et de prier. Et lui-même s'est éloigné de ses trois témoins, Pierre, Jacques et Jean, pour aller à une distance d'environ un jet de pierre. Il nous faut lire ce que les évangiles nous rapportent de cette scène. Et il n'est pas question de vouloir entrer par notre sentimentalité dans ces choses. Il faut nous en tenir strictement à ce que la parole et l'Esprit de Dieu nous déclarent. Il commença d'être saisi d'effroi et fort angoissé. Comment les disciples ont-ils pu se rendre compte que le Seigneur Jésus était saisi d'effroi et fort angoissé? Est-ce que nous nous représentons saisi d'effroi, fort angoissé? Et il dit à ses disciples, mon âme est saisie de tristesse jusqu'à la mort. Est-ce que nous nous arrêtons sur ces expressions? Tu nous montres le Seigneur Jésus dans son angoisse infinie. Et il nous a dit qu'il s'est jeté sur sa face. Un autre évangile nous dit qu'il tomba sur sa face. L'évangile de Luc nous dit qu'il priait. Quelle scène! Le Seigneur Jésus avait devant lui de boire la coupe de la colère de Dieu que nous avions méritée et que nous devions boire pendant l'éternité. Oh, chers amis, il n'y a pas d'accoutumance en enfer. Ceux qui seront là seront torturés. C'est les temps de feu embrasés par le souffle qui a la seconde mort. Les temps de feu a été préparé, non pour l'homme, mais pour Satan et ses anges. Et l'homme qui méprise la grâce de Dieu ira partager le sort de Satan dans les temps de feu et de souffle. Nous devions tous y aller. Sans la mort de Jésus, la mort expiatoire de Christ, nous étions tous dans ce lieu de tourment. Mais le Seigneur Jésus est venu pour boire la coupe que le Père lui avait donnée à faire. Et nous voyons s'exprimer à son Père, « Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi. » Évangile de Marc, « Père, toutes choses que sont possibles, fais passer cette coupe loin de moi. » Toutefois, non pas ce que je veux, moi, mais ce que tu veux, toi. Et si Dieu, le Père, ému de compassion vers son Fils, avait dit, bon, c'est entendu, tu ne boiras pas la coupe. Nous étions tous perdus, éternellement perdus, dans les tourments éternels. Mais Dieu, dans son amour pour nous, n'a pas épargné son propre Fils. Et nous n'entendons pas la réponse du Père, mais c'est comme si le Père avait dit, non, c'est impossible. Et le Seigneur, répartissant, s'il n'est pas possible que cette coupe passe loin de moi, que ta volonté soit faite et non la mienne. À trois reprises, le Seigneur a crié à son Père, et Dieu le Père ne l'a pas épargné. Il a plu à l'Éternel de le meurtrir, il l'a soumis à la souffrance. Satan était là. Et lui présentait la mort comme salaire du péché. Il avait le pouvoir de la mort qu'il avait acquis depuis le jardin. Il cherche à faire reculer le Seigneur. Et il nous est dit qu'étant dans l'angoisse du combat, il priait plus instamment. Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang dégoulant jusqu'à terre. Est-ce que nous nous arrêtons sur ce récit? Nous faisons bon marché du péché, hélas. Mais si nous réalisons tout ce que le Seigneur Jésus a souffert pour porter nos péchés, pour expier nos péchés, pour être fait péché, afin que nous devinssions justice de Dieu en lui, alors peut-être regarderions-nous à deux fois avant de pécher. Oui, le Seigneur anticipait la coupe. Il ne la buvait pas encore, mais il en sentait toute l'intensité dans ce combat, un combat singulier comme il n'y en a jamais eu dans l'histoire du monde et de l'éternité. De la victoire du Seigneur dépendait notre sort éternel, et non seulement notre sort éternel, mais aussi la gloire de Dieu à l'égard du péché. Le Seigneur Jésus se courbe, il accepte que ta volonté soit faite, et non la mienne. Plus tard, nous voyons Pierre qui prend une épée. Ce faisant, il s'opposait à l'accomplissement des conseils de Dieu avec ses bonnes intentions. Et le Seigneur lui dit la coupe que le Père m'a donnée, ne la boirai-je pas. Et maintenant, il s'avance en tenant à la main cette coupe de la colère de Dieu contre le péché. Cette coupe, le Seigneur l'a bu pendant les 3 heures de ténèbres. Les 3 premières heures de la croix sont là pour manifester une dernière fois l'état de perdition de l'homme, sa ruine invétérée. On cherche à le faire descendre de la croix, quitter le chemin de l'obéissance et de la dépendance. On le défie et on lance un défi à Dieu lui-même en disant « Qui le délivre s'il prend plaisir en lui ?» Car il a dit « Je suis fils de Dieu ». Et cependant, à nul autre moment, le Seigneur n'avait un tel prix pour Dieu qui accomplissait ainsi l'œuvre de la rédemption. Le Seigneur est obéissant jusqu'à la mort, et à la mort de la croix. On lui préfère un Barabbas, un meurtrier. Voilà ce qu'est le cœur de l'homme, voilà ce que sont nos cœurs. Nous ne devons nous faire aucune illusion quant à nous-mêmes. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Nous avons même conscience d'être pires que les autres. Mais voilà, pendant 3 heures, le soleil est obscurci. Il y a eu des ténèbres sur tout le pays. Et c'est pendant ces 3 heures, qui ont duré un temps infini pour le Seigneur, il était sous la colère de Dieu. Dieu règle d'une façon parfaite, définitive, éternelle, la question du péché et du péché. Et cela à sa propre gloire. Ce sont les psaumes et les prophètes qui nous permettent d'entrer tant soit peu dans ce qu'ont été ces 3 heures de ténèbres sous la colère de Dieu. Dieu n'a pas épargné. Dieu ne peut pas voir le péché, même quand c'est son fils qui en est chargé. Il le frappe sans compassion, sans miséricorde. Et le Seigneur, dans la détresse de son âme, pousse ce cri déchirant, comme aucun cri n'a retenti sur cette terre en détresse infinie. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Lui, l'homme parfait, le juste, le saint, celui qui avait glorifié Dieu pendant toute sa vie, est là, abandonné de Dieu, parce qu'il s'est chargé de nos péchés pendant ces 3 heures de ténèbres pour les expier. Mais, à la fin de ces 3 heures de ténèbres, le soleil se lève à nouveau. La question du péché est réglée. La communion est retrouvée avec le Père. Elle peut remettre son esprit entre les mains de son Père. L'œuvre est accomplie. Remarquez que dans l'évangile de Luc, la mort de Jésus est placée après que le voile est déchiré. Dans l'évangile de Matthieu et de Marc, nous voyons le Seigneur meurt et le voile est déchiré. Dans l'évangile de Luc, c'est comme si le Seigneur, ayant connaissance que la rédemption était accomplie, que le péché était expié, peut alors, il avait accompli son œuvre, sa tâche jusqu'au bout, en perfection, alors il remet son esprit entre les mains du Père. Et que se passe-t-il lorsque le Seigneur Jésus entre dans la mort? Il y rentre en vainqueur. Dieu déchire le voile, indiquant là, maintenant, plus d'obstacles. Le péché est expié. Tout est terminé à ma gloire, je suis glorifié. Il a porté les péchés de ceux qui croient. Tous les péchés, il n'en reste aucun. S'il était resté un seul péché sur la tête du Seigneur qui s'est déchargé de tous les péchés, Dieu ne l'aurait pas ressuscité d'entre les morts. Il l'a ressuscité d'entre les morts parce que tous les péchés, sans exception, ont été expiés. Et maintenant, Dieu invite tout homme, les plus vils, les plus misérables, les plus coupables, s'il y en a. Mais nous ne savons pas ce qu'est le péché aux yeux de Dieu. Et bien maintenant, tout homme pécheur peut s'approcher de Dieu avec une pleine assurance. Nul ne vient au Père que par moi. Et maintenant, lorsqu'un pécheur s'approche de Dieu, du Dieu trois fois saint, en disant « Je viens à toi en vertu de la mort de Christ, je viens à toi en vertu de son précieux sang. » Oh, l'évangile de Luc, chapitre 15, nous montre la réception que Dieu fait à un pécheur qui vient à lui par Christ. Il n'y a pas d'autre moyen de s'approcher de Dieu que Christ, sa mort expiatoire, son sang précieux, le précieux sang de Christ. Mais quand on se présente devant Dieu par celui qui est le chemin, la vérité et la vie, Dieu reçoit. Heureux, il y a de la joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent. Mais l'œuvre de Christ est parfaite. Et en vertu de son œuvre, nous sommes devenus enfants de Dieu et nous avons la paix avec Dieu et nous sommes introduits dans la faveur de Dieu. L'œuvre est parfaite. Et Dieu nous voit en Christ, et comme lui, lavé dans son précieux sang, irréprochable, irrépréhensible devant lui en amour. Dieu est satisfait. Et maintenant, Dieu nous ouvre son cœur, on l'a dit ce matin. Il nous ouvre les bras, il nous ouvre son cœur, il nous ouvre le ciel. Quel bonheur. Oh, chers amis, nous ne pouvons pas soupçonner quelle est l'étendue des bénédictions dont nous sommes comblés en Christ et en vertu de son œuvre. Et nous sommes appelés jour après jour à faire l'inventaire de ces richesses insondables du Christ qui sont notre part dans la foi. Nous pouvons nous approcher maintenant, à quelques moments du jour ou de la nuit, du trône de la grâce. Dieu nous a pour agréable. Il nous voit parfaits, irréprochables dans son bien-aimé. Nous ne sommes plus dans la chair, nous sommes en Christ. Et cela, c'est la part de tous ceux qui ont cru, du jour où ils ont cru. Nous sommes morts avec Christ, mais nous sommes ressuscités avec Christ, mais nous sommes glorifiés avec Christ. Nous ne sommes plus dans la chair, nous sommes en Christ. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Toutes choses sont faites nouvelles. Oh, chers amis, pendant l'éternité, nous pourrons méditer sur ces choses. Et alors, nous pourrons réaliser. Quand nous étions dans le corps, nous disions, oh, nous sommes des objets de la grâce de Dieu. Mais quand nous serons dans la lumière du sanctuaire, nous pourrons dire, ah, oh, quelle grâce. Je savais bien que j'étais un objet de grâce, mais à ce point-là, lorsque nous reverrons toute notre vie, tous nos actes, toutes nos paroles, toutes nos pensées, nous dirons, quelle patience qu'il y a envers moi, quel amour envers moi, mais quelle grâce, quel amour. Ah oui, nous pouvons nous réjouir parce que nous connaissons l'amour de Dieu. Mais il ne faut pas rester sur les bords. Il faut de jour en jour sonder la parole qui nous parle, des souffrances qui furent la part de Christ et des gloires qui suivent. Oh, que nos cœurs soient remplis de reconnaissance et d'adoration. Nous chantons dans un cantique que ta mort, ô sainte victime, soit toujours présente à nos yeux. La mort de Christ, oui, mais les souffrances de Christ. Oh, chers amis, le ciel nous est ouvert. Nous y avons accès 24 heures par jour. Est-ce que nous y paraissons 24 heures par jour? Ah, combien nous avons fait. Combien nous devons réaliser que Dieu nous rend Christ agréablement bien-aimé et nous approcher avec confiance du trône de la grâce pour être des adorateurs avant toute chose, mais aussi des serviteurs. Si nos cœurs sont remplis de la personne de Christ, comme il devrait l'être, alors nous serons des témoins pour lui dans ce monde, car de l'abondance du cœur, la bouche parle. Ô chers amis, lisons la parole. Mais il faut être en bon état pour lire la parole et vivre dans le jugement de nous-mêmes, afin que le Saint-Esprit puisse prendre ce qui est à Christ et nous le communiquer. Le Seigneur désire que nous entrions dans toutes les conséquences et toutes les bénédictions de son œuvre et tous les privilèges. Mais il désire aussi que nous nous souvenions toujours du prix qu'il a payé pour que nous ayons ainsi continuellement accès dans le ciel en attendant d'être introduits dans les félicités célestes, ou alors nous connaîtrons comme nous avons été connus et nous pourrons adorer, nous aurons, après être passés devant le tribunal de Christ, une provision de louange et d'adoration pendant l'éternité.